Le journal. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous. Leurs parents sont morts, incarcérés ou portés disparus. Cinq enfants de djihadistes français viennent d'être rapatriés par les autorités françaises. Les autorités qui appliquent la théorie du cas par cas. Le terrorisme d'extrême droite a frappé en Nouvelle-Zélande. 49 musulmans tués dans deux mosquées. Le principal suspect est un Australien d'extrême droite sensible aux thèses du grand remplacement. Notre colère est une énergie renouvelable. Les jeunes de France et du monde entier se mobilisent contre les dérèglements climatiques. Ils interpellent leurs gouvernants. À suivre, encore des milliers d'Algériens dans les rues. Raphaël Glucksmann, candidat aux européennes, et le PS polytraumatisé. Des mathématiciens réunis à Paris et une prescription culturelle au Salon du Livre. Le temps, pas mal de soleil demain, nous dira Sébastien Léas.
France Inter.
Cinq enfants, cinq petits-enfants très jeunes, nés de djihadistes français en Syrie, sont donc arrivés en France aujourd'hui. Leurs parents sont soit décédés, soit portés disparus, soit incarcérés. C'est le premier retour du genre organisé par les autorités. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir.
Vous suivez ce dossier depuis plusieurs mois pour France Inter. Sophie, dites-nous d'abord... Qui sont ces enfants?
Alors, ce sont cinq enfants qui sont en effet très jeunes. Le plus petit est un bébé âgé d'un an et les plus âgés n'ont que cinq ans. Trois de ces enfants sont des frères orphelins dont les grands-parents avaient lancé des appels désespérés au président Macron pour aller les chercher ces dernières semaines. Avec ces trois frères, il y a deux fillettes de 4 et 5 ans qui ont été rapatriées aujourd'hui. Deux petites orphelines, elles aussi, sans lien de parenté. Alors, ce sont des militaires français qui sont allés chercher ces enfants cette semaine, notamment dans le camp d'Al-Hol, au nord-est de la Syrie. Les soldats les ont exfiltrés du camp. Ils les ont ramenés dans un avion militaire avec des médecins à bord. Ces enfants qui ont atterri à l'aéroport de Villacoublay après un voyage rendu difficile par la météo. Ces enfants ont été pris en charge médicalement dès leur arrivée pour des examens de santé approfondis, sachant qu'un de ces enfants au moins est sérieusement blessé au visage par des éclats d'obus et il ne peut pas marcher. Nous avons choisi d'aller chercher ces enfants-là précisément car ils étaient dans une situation très vulnérable, sans protection immédiate, sans parents, explique aujourd'hui le Quai d'Orsay.
Sophie Parmentier, quelle est la doctrine de la France à propos de ces enfants?
Alors, la doctrine n'a pas vraiment changé depuis 18 mois. Retour au cas par cas, déclaré encore cette semaine le président Macron à Nairobi. On est complètement dans ce cas par cas, commente un diplomate qui ajoute que d'autres retours d'enfants sont envisageables depuis la Syrie ou l'Irak, mais sans leurs parents, répète pour l'instant le gouvernement, même si depuis 2014, de nombreux djihadistes sont rentrés avec leurs enfants, mais par une autre voie, par la Turquie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Merci beaucoup Sophie Parmentier. Vous venez de joindre l'avocat Martin Pradel. Il assiste ses grands-parents dont vous nous parliez, ses grands-parents qui demandaient le rapatriement de leurs trois petits-enfants. Il espère, maître Pradel, que d'autres enfants rejoindront bientôt la France.
C'est un véritable soulagement pour cette famille, c'est ma première réaction. Ils sont stupéfaits de joie. Ma deuxième réaction, c'est de constater que donc c'était possible. On nous a longtemps dit qu'il n'était pas possible d'intervenir dans cette zone parce que là-bas c'est la guerre, parce que là-bas c'est compliqué. On voit que c'est possible. On peut se mobiliser et simplement être dans l'action pour les valeurs. Et donc comme c'est possible, la question que pose ce retour, c'est la question de ceux qui sont encore là-bas, qui sont chaque jour encore soumis au froid, soumis à la faim, soumis à la pluie, soumis à la mort. Donc ces enfants, il faut que nous prenions acte de ce qu'il est possible de les secourir et il faut aller les sauver.
Et selon l'ONG Save the Children, il y aurait sur zone 3500 enfants dans cette situation originaire d'une trentaine de pays, au moins 80 Français. Le retour des enfants de djihadistes, ce sera le thème du Téléphone Sonne lundi soir sur France Inter.
En Nouvelle-Zélande, le jour se lève, un jour de deuil après des attentats contre deux mosquées.
49 personnes sont mortes dans une série de fusillades à Christchurch, des musulmans tués dans leur mosquée. Quatre personnes ont été arrêtées. Le principal suspect qui va comparaître dans quelques heures devant un tribunal est un Australien d'extrême droite. L'émotion, évidemment, est considérable, surtout que la Nouvelle-Zélande est considérée comme un pays plutôt paisible. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Frédéric.
C'est bien simple, Louise. Cet attentat a fait plus de victimes que les homicides en une année là-bas.
Oui, cet archipel isolé d'Océanie, ce petit pays de moins de 5 millions d'habitants, est réputé comme l'un des plus sûrs au monde. Il affiche un taux d'homicide semblable à celui de la France ou de l'Allemagne, malgré une législation sur les armes beaucoup beaucoup plus permissive. 1 200 000 armes à feu seraient en circulation dans l'archipel. Toutefois, la Nouvelle-Zélande ne connaît pas les tueries de masse, encore moins les attentats. Il y a 8 ans, c'est une tragédie d'une toute autre nature qui a frappé Christchurch. Un violent séisme qui a provoqué la mort de 185 personnes. Pays jusqu'ici épargné par la violence et par le racisme. La Nouvelle-Zélande est plus ouverte à l'immigration que l'Australie voisine. Et le parti nationaliste local a reculé aux dernières législatives. 46 000 Néo-Zélandais sont de confession musulmane, soit 1% de la population qui vit en harmonie avec les nombreuses autres communautés. Nous sommes une nation fière d'avoir plus de 200 000 origines ethniques, a rappelé tôt ce matin la première ministre néo-zélandaise. Diversité précisément visée par le tueur qui a voulu démontrer, je cite, que les envahisseurs sont sur toutes nos terres, même les plus éloignées.
Le terroriste qui a diffusé un manifeste sur Internet, 73 pages où il explique ses motivations et sa vision du monde avec en couverture une sorte de symbole tribal ésotérique découpé en 8. Et surtout, c'est intitulé « Le grand remplacement ». Maxence Lambrecq, « Le grand remplacement », c'est une théorie raciste et identitaire popularisée en France.
Oui, popularisée par un écrivain septuagénaire, Renaud Camus. Il développe cette théorie en 2011 dans un livre. Pour lui, les élites françaises et européennes sont remplacistes. Elles organisent la submersion migratoire pour que la population blanche, européenne, chrétienne et éduquée disparaisse et qu'émerge alors un modèle de société esclavagiste. Cette théorie alimente évidemment l'islamophobie. Renaud Camus s'en défend et dénonce ce soir un acte terroriste épouvantable. « Je suis absolument non-violent », dit-il. Pour contrer ce supposé grand remplacement, lui défend le concept de remigration avec des lois qui obligeraient les personnes immigrées à retourner dans leur pays d'origine. Ces théories sont énormément relayées sur Internet. D'après un sondage l'an dernier, 48% des Français considèrent qu'il y a bien un grand remplacement en France. Marine Le Pen n'a jamais osé employer ce terme en public, trop complotiste à ses yeux. Mais au RN, tous sont persuadés de ce remplacement de population en cours. Ils s'appuient en ce moment sur le dernier livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français, où le responsable de l'IFOP assure qu'il y a en France 18% de prénoms arabo-musulmans parmi les nouveaux-nés en 2016. Ainsi, Robert Ménard, Éric Zemmour, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, Stéphane Ravier considèrent que le grand remplacement n'est pas une théorie, mais bien une réalité.
En France, le ministre de l'Intérieur renforce la surveillance des mosquées. Le président de la grande mosquée de Strasbourg dénonce, je cite, le discours islamophobe de certains intellectuels et politiques qui favorisent le passage à l'acte, mais il appelle ses co-religionnaires à ne pas céder aux provocations. Et puis, ensemble, le grand rabbin de France et le recteur de la mosquée de Paris dénoncent la haine et la violence.
Il est 19h08 sur France Inter, la suite du journal, Frédéric Mettezo.
Comme on pouvait s'y attendre, des milliers d'Algériens, des dizaines de milliers ont battu le pavé aujourd'hui, vendredi. Ces jours de repos et de grandes prières en Algérie, les images en provenance d'Alger sont impressionnantes. Les manifestants n'ont pas été convaincus par les dernières annonces d'Abdelaziz Bouteflika. Certes, il ne se représentera pas, mais il reste au pouvoir pour une durée indéterminée. Hier, le nouveau Premier ministre a promis qu'il entendait la rue et la jeunesse. Mais ni la rue, ni la jeunesse, ni même les personnes un peu plus âgées ne sont dupes. Comme ce manifestant algérois, Amar, père de famille de 52 ans, qui manifeste tous les vendredis depuis le début du mouvement.
Quand vous voyez ces gens-là, c'est le peuple. Chacun a sa vision des choses. Il y a l'islamiste, il y a le jeune, il y a le civilisé, il y a... Tout le peuple est ici. Maintenant, à supposer que ce pouvoir va partir, il faut trouver un consensus entre ces jeunes-là qui crient. De toute façon, il n'y a que la démocratie qui va nous unir.
Vous avez le sourire, monsieur, hein ?
Oui, c'est une révolution qui sort de l'écran. Hein, c'est Facebook. De l'écran, elle est dans la rue. Donc, c'est avec le sourire qu'on comprend tous les événements. C'est d'une manière pacifique, d'une manière aussi civilisée. J'espère seulement que ça va aboutir.
Un reportage de notre envoyé spécial à Alger, Saïd Seguir.
Et en Europe aussi, la jeunesse interpelle ses dirigeants.
En Allemagne, en Belgique, en Scandinavie, des jeunes marchent pour que les gouvernements se mobilisent plus fortement contre le réchauffement climatique. 300 000 jeunes ont fait la grève pour le climat en Allemagne. À New York, une cinquantaine se sont allongés devant le siège des Nations Unies. En France, ils étaient 168 000 selon les organisateurs à Lille, Lyon, Bordeaux et Toulouse. 29 à 40 000 à Paris dans un défilé très fourni entre le Panthéon et les Invalides, Sandy Dauphin.
sacs à dos de lycéens et de collégiens sur le dos, parfois une goutte verte coloriée sur la joue. Ces manifestants survoltés sont chauds, comme ils disent, pour le climat.
On a prévenu tous nos profs, même les parents, ils veulent pas, mais c'est pas grave, on y va quand même.
Ça sert à quoi d'aller à l'école si au final on n'aura pas d'avenir?
Aux arbres citoyens, papa, maman, la planète sèche, moi aussi, festival de slogans sur les pancartes bricolées.
Du premier côté, il y a écrit « les calottes sont cuites » et de l'autre côté, il y a écrit « il n'y a pas de planète B ».
Nina a des gants en caoutchouc et un sac poubelle à la main. Elle joint l'acte à la parole.
On ramasse les déchets en fait. Il y en a qui ramassent les mégots, d'autres les déchets non recyclables et les autres les déchets recyclables. C'est le mouvement Clean Walker.
Clean Walker, c'est les marcheurs de la propreté, c'est ça?
Voilà, c'est ça. En fait, on se déplace et en même temps, on ramasse les déchets.
Parmi les rares adultes, Julien, il enseigne les enjeux énergie-climat à la fac et cette mobilisation de la jeunesse l'enthousiasme.
L'énergie qu'il y a dans cette manif, c'est fou parce que pour en faire pas mal, la vitesse à laquelle les gens marchent, les slogans, l'inventivité sur les pancartes et tout, c'est vraiment génial. Ouais. Il y a de l'humour et tout, c'est chouette.
Et la manifestation s'est terminée par une sorte de sit-in géant sur l'esplanade des Invalides.
Demain, les gilets jaunes seront de sortie pour un 18e samedi de mobilisation. Parmi les revendications sur les ronds-points et dans les cortèges, le pouvoir d'achat est particulièrement celui des retraités. La hausse de la CSG pour eux a été enterrée, restait la désindexation, c'est-à-dire que la hausse des retraites ne suivait plus l'inflation, d'où une baisse mécanique du pouvoir d'achat. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Le Premier ministre envisage désormais de réindexer les retraites sur la hausse des prix.
Oui, car l'addition pour les retraités est pour le moins salée ces dernières années. Gel des pensions en 2017 après deux années proches de zéro, année blanche en 2018 et augmentation prévue à minima à 0,3% seulement pour les deux années qui viennent, là où l'inflation est annoncée à 1,8%. Tout ce qui est gelé et raboté sur les pensions ne se rattrape évidemment jamais. Et les associations de retraités estiment ainsi avoir déjà perdu entre 6 et 8% sur leurs pensions au cours de ces quatre dernières années. Creuser encore davantage les retraites devient donc une réalité politique explosive pour le gouvernement. Selon nos informations, la majorité souhaitait initialement réindexer l'ensemble des retraites pour 2020, mais le mot « petite » est venu s'accoler au mot « retraite » pour limiter l'addition. Le Premier ministre ouvre donc aujourd'hui la porte, mais il insiste également sur le mot « petite retraite », ce qui pose une autre question. Peut-on différencier et réévaluer à deux vitesses en fonction du montant des retraites? Les experts sont là encore pour le moins dubitatifs. Révaloriser l'ensemble des pensions sur le niveau de l'inflation coûterait 3 milliards d'euros chaque année, libre au gouvernement d'ajuster ensuite la fiscalité des plus aisés.
Autre réponse à la mobilisation des gilets jaunes, le grand débat partout en France, dans toutes les configurations possibles, des Français ont échangé entre eux. Ils ont aussi posté des contributions sur Internet. Le grand débat s'achève, place désormais aux conférences citoyennes avec des personnes tirées au sort dans chaque région. Et cela pour faire le bilan des contributions et voir ce qui peut être mis en œuvre. Exemple, cet après-midi, en Ile-de-France à Paris, au Grand Palais Delphine Evenoux.
Ils sont en plein travail, plus d'une centaine de participants répartis par table et représentatifs de la société française car ils ont été tirés au sort. C'est ce qui fait l'originalité de cet exercice. Gaëtan Ricarniou est responsable du pôle conférence citoyenne à la mission Grand Débat.
C'est une vraie expérimentation de démocratie participative. Ça permet de faire venir à l'exercice démocratique des gens qui peut-être n'auraient pas spontanément été vers cette pratique. Ça permet de garantir une certaine diversité, confronter les citoyens à ce qu'est de travailler ensemble, collectivement, à des solutions.
Théo, 18 ans, étudiant en école de commerce, a reçu le fameux coup de fil. Il a dit oui tout de suite pour défendre sa génération et l'environnement.
C'est un point qui est très important pour nous, la jeunesse, parce que c'est bien beau de trouver des choix en fiscalité et tout ça, mais le problème, c'est que si on n'a plus de planète après, ça ne nous servira à rien.
Chacun son thème de prédilection, évidemment, mais la méthode de travail est ici bien rodée. Un thème, un diagnostic, ce qui va, ce qui ne va pas en France, et des propositions priorisées. Les débats sont en cours.
C'est l'abondance des niches fiscales.
Pour les entreprises et pour les particuliers. Parce que ça va soulever un débat, c'est qu'il y a moins de 50% de la population qui paye l'impôt sur le revenu.
Ils sont riches et vont durer encore demain. La synthèse sera fournie au gouvernement début avril.
Les comptes de la sécurité sociale continuent de s'améliorer. Le déficit du régime général était d'1,2 milliard d'euros, divisé par 4 en un an. C'est le déficit le plus faible depuis 2001, mais c'est moins bien que ce que prévoyait le gouvernement.
Il veut une liste de gauche polyphonique, comme c'est joli, mais pour l'instant, c'est la cacophonie au PS. Ce matin, sur France Inter, Raphaël Glucksmann annonçait sa candidature comme tête de liste d'une gauche unie aux européennes avec des socialistes derrière lui. Il appelle Benoît Hamon et surtout Yannick Jadot à le rejoindre. Pour l'instant, c'est non. Et même au PS, qui réunit demain son Conseil national à Paris pour valider cette stratégie, le choix de Raphaël Glucksmann et de Place Publique est discuté. Un exemple, Yael Gauz, l'ancien ministre Stéphane Le Foll quitte le bureau du PS et d'autres Hollandais sont en colère.
Car les socialistes sont des polytraumatisés. Après les 6% de la présidentielle, il a fallu faire accepter la vente de Solferino, le déménagement en proche banlieue de Paris. Début janvier, Olivier Faure, le premier secrétaire, s'attaque au Saint-Dessin, le bilan de François Hollande. L'inventaire devant les camarades est implacable. C'est même Hollandais qui ont tout fait pour dissuader l'actuelle direction de se rapprocher de Place Publique. Malgré la pression, Olivier Faure est resté sur sa ligne, changer ou mourir. Une conviction inébranlable, acquise lors de sa première rencontre avec Raphaël Glucksmann l'été dernier. Fini le temps où un PS hégémonique pouvait caporaliser la gauche. Le temps est aux alliances multiples et à l'ouverture sur la société civile. Il n'est pas le seul à le penser. Il pourra demain matin compter sur des soutiens de poids. Anne Hidalgo, Martine Aubry, les maires de Nantes et de Rennes, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Le vote pour l'alliance avec Place Publique sera sans doute majoritaire, mais les opposants en interne feront vibrer la corde sensible, celle d'un PS centenaire, incapable pour la première fois de présenter sa propre tête de liste dans un scrutin européen.
Des mathématiciens du monde entier réunis à Paris, Frédéric.
Avec des chiffres plein la tête et des équations dans les yeux, mais ces mathématiciens peuvent aussi changer notre vie quotidienne. Par exemple, gérer les ressources de poissons, mesurer la force d'un ouragan ou anticiper l'érosion des côtes. Eh bien, tout ça, ce sont des maths. Les maths sont donc très présents dans notre vie quotidienne. Et des mathématiciens venus du monde entier sont réunis à l'UNESCO à Paris, Sophie Bécherel.
Elles n'ont pas bonne réputation, pourtant qu'elles soient pures ou appliquées, les mathématiques sont très présentes dans notre vie quotidienne. Hichem Ramoul, enseignant-chercheur en Algérie et spécialiste des problèmes inverses.
C'est vrai, c'est une matière très difficile, mais elle a des applications dans tous les domaines scientifiques, en physique, en aéronautique, tout est à base d'équations mathématiques. Ça se voit pas pour les jeunes qui débutent dans les mathématiques, ils croient que c'est toujours abstrait, mais non, c'est le contraire, tout se passe avec des mathématiques. En parlant de problèmes inverses, détection de pétrole, en biologie, détection des tumeurs dans le cerveau.
Hélas, dit-il, le monde politique et économique n'a pas encore compris l'intérêt de la discipline. Lui, qui lors de sa thèse à Marseille travaillait pour Total ou Elf, n'a pas pu mettre son savoir au service des entreprises pétrolières, pourtant très présentes en Algérie. A l'inverse, Nadia Raissi, professeure à l'université Mohamed V à Rabat, a été appelée à la rescousse quand il s'est agi de sauver le secteur de la pêche. La ressource était menacée, les biologistes voulaient un moratoire, sauf que le secteur emploie 6% de la population marocaine. Elle a modélisé le problème.
Le mathématicien a une vue un peu plus globale, plus générale. Il peut à la fois voir le côté économique, le côté social et le côté écologique de la question. Et à travers les modèles, lorsqu'ils sont bien écrits, on peut englober tous ces paramètres-là.
Ailleurs, au Sud, le développement des mathématiques passe par l'enseignement jusqu'au doctorat, avec des jeunes de plus en plus nombreux et de plus en plus talentueux, disent leurs mentors.
Allez, pour finir, des mathématiques appliquées. Combien de vainqueurs de la compétition encore en lice? Quelle probabilité d'un vainqueur anglais? Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de football aujourd'hui nous donne Manchester United face au FC Barcelone, Juventus de Turin face à l'Ajax d'Amsterdam, Liverpool-Porto et Tottenham contre Manchester City. Match aller les 9 et 10 avril, match retour une semaine plus tard et puis Claire.
On savait des choses. Hein.
Après les chiffres, les lettres, Salon du Livre à Paris. Il a ouvert ce matin la porte de Versailles et puis à Tours, le Salon du Livre des Assises du Journalisme se tient demain au MAM avec plein de journalistes, des messieurs et des dames de grand talent.
Merci beaucoup, c'était le journal de Frédéric Mettezo. Dans un instant, le temps.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Trois départements en vigilance orange ce soir.
Oui, vigilance aux avalanches sur la Savoie et la Haute-Savoie et vigilance aux crues et aux risques d'inondation sur le département du Nord, notamment près de l'Helpe qui coule dans l'Avesnois. Il faut dire que ce mois de mars a été particulièrement arrosé au nord de la Loire, en particulier dans le Nord. La station de Lille a d'ailleurs connu sa première quinzaine de mars la plus arrosée depuis le début des mesures. Demain, on retrouvera un temps plus calme. Les dernières pluies qui toucheront les départements près des frontières du Nord vont vite quitter l'Hexagone. Au fil des heures, heures, la couche nuageuse compacte en début de journée va se morceler. L'après-midi sera bien ensoleillé. Les Pyrénées et le quart sud-est auront du soleil dès le matin, mais l'ouest Bretagne et le nord de la Seine garderont tout de même un ciel nuageux l'après-midi. Et les températures seront plutôt douces pour la saison, variant entre 11 et 24 degrés, avec 16 degrés pour Paris, Dijon et pour Nice.
Dimanche, une nouvelle perturbation.
Et malheureusement, oui, l'amélioration aura été de courte durée, puisque dès la nuit de samedi à dimanche, une nouvelle perturbation va aborder le pays par les côtes de la Manche. Cette perturbation pluvieuse va balayer le pays, s'étendant l'après-midi entre les Pyrénées, le Grand Est et le nord des Alpes. Il va aussi neiger en montagne des 1000 mètres d'altitude sur la plupart des massifs. Et puis à l'arrière de cette perturbation, un ciel de traîne va se mettre en place avec des éclaircies et quelques averses. Sur le nord-ouest, les averses seront plus nombreuses et parfois sous forme de giboulées orageuses. Le pourtour méditerranéen sera à l'écart et gardera un temps plus clément avec de belles éclaircies. Et évidemment, avec le passage de cette perturbation, les températures vont fraîchir. 9 à 15 degrés en général, mais 16 à 22 degrés autour de la Méditerranée.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.